dante et fondamentalement chrétien, et la conception de la religion qu'il va essayer de développer, c'est plutôt quelque chose qui va être une élévation de soi, c'est-à-dire une recherche qui va être une recherche de Dieu, mais qui va passer par une exigence finalement proprement humaine, dans la mesure où il s'agit de prendre en charge un petit peu sa propre élévation. Et c'est cela que va symboliser un petit peu la Divine Comédie, c'est-à-dire tout d'abord se rendre compte de sa déviance, c'est l'enfer, et ensuite effectuer sa purgation, ce qui sera le moment du purgatoire, pour réussir à retourner justement vers le principe et l'élévation paradisiaque. Donc il y a une démarche profondément personnelle dans cette élévation.
Quel est son rapport philosophique et théologique à l'espérance ?
C'est quelque chose qui est le principe moteur un petit peu de toute sa dynamique. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a espérance que l'on va véritablement pouvoir fonder ce chemin. Donc la vertu théologale n'est pas seulement quelque chose qui est l'espoir d'une vie après la mort, mais c'est quelque chose qui est l'espoir d'une guérison et d'une atteinte de la transcendance dans cette vie elle-même par le cheminement de l'individu et sa propre métamorphose.
Est-ce qu'on pourrait dire de Dante qu'il est un prophète ou un humaniste ? Il y a cette tension difficile à démêler dans son œuvre entre l'humain et le divin.
Il se constitue finalement comme un prophète à partir d'une idée que l'on a à son époque, qui est que l'élévation intellectuelle permet d'arriver à de nouvelles capacités, qui permet d'une certaine manière de voir l'avenir. Mais cette dimension prophétique est finalement un petit peu, pour une partie essentiellement symbolique, même s'il y a une volonté prophétique d'annoncer des éléments qui cette fois-ci sont plutôt politiques, avec une prophétie impériale par exemple. Et cette dimension que l'on pourrait dire humaniste, c'est d'essayer de montrer un petit peu comment l'humanité peut être sauvée par elle-même et comment elle va passer finalement aussi par un respect de l'autre, une acceptation d'autrui. Sa dimension prophétique et humaniste va surtout se sentir finalement dans des écrits à tendance plus politique.
Et quel est le but de la Divine Comédie ? Est-ce uniquement l'élévation de soi pour atteindre Dieu ?
Il y a une exigence plus centrale qui serait aussi la possibilité de se découvrir soi-même. Évidemment, au terme du trajet, c'est Dieu qui est atteint, mais en réalité, le but, c'est de s'atteindre soi-même. Il y a dans la Divine Comédie quelque chose qui est une véritable écriture de soi. C'est une œuvre qui est écrite à la première personne, ce qui n'est pas extrêmement courant, notamment à l'époque, et c'est quelque chose qui est destiné à montrer que par la création, l'individu, en tant que poète, se crée véritablement lui-même. L'espérance est quelque chose qui articule vers une vie céleste qui est après la mort, mais en cette vie, l'espérance, c'est d'abord la conquête du soi. Donc la démarche de la Divine Comédie, c'est véritablement une tentative de se reconquérir soi-même alors qu'on s'était perdu, puisque le début de l'enfer, on a perdu la voie droite, ainsi que le marque le tout premier vers de la Divine Comédie.
Dans quelle mesure aussi cette œuvre s'inscrit dans son contexte historique bien précis, celui de la Toscane érudite médiévale, berceau bien sûr artistique et intellectuel de la péninsule ?
On a la présence de philosophes, de poètes, d'hommes politiques, militaires ecclésiastiques, qui sont tous présents à l'intérieur de la Divine Comédie et qui font qu'on a toute la culture d'une époque qui va être représentée dans l'œuvre. On a aussi la présence des sciences, avec de l'astronomie, de la médecine, de l'optique. Donc Dante cherche véritablement à faire quelque chose qui ressemble à l'œuvre de celui qui fut son maître, Brunetto Latini, qui a écrit le livre du trésor, qui était une sorte d'encyclopédie philosophique. On pourrait dire que Dante est véritablement à l'orée de la Renaissance, et on est dans un moment où on quitte presque définitivement le Moyen-Âge pour entrer dans une nouvelle culture qui est en train de s'initier.
Nombre de papes ont à chaque fois commémoré Dante. Pourquoi cette attention si particulière selon vous ? Quelle relation entre Dante et l'institution de l'Église ?
Si les papes aujourd'hui ou par la suite ont célébré Dante, à l'époque de Dante, Dante est en conflit avec l'institution pontificale. Donc on a un rapport d'amour-haine parce que pour lui, d'ailleurs, il y a ce passage toujours un petit peu surprenant des papes en enfer, où on attend encore Boniface VIII, qui est toujours régnant au moment où il commence à écrire la Divine Comédie. Et donc Dante est véritablement en rupture avec le pontificat de son époque, qu'il considère comme une structure qui est dévoyée, comme une structure qui est devenue une pure puissance politique qui cherche à prendre le contrôle par le pouvoir spirituel du pouvoir temporel. Et donc la première relation véritable dans l'œuvre elle-même est une relation conflictuelle. D'un autre côté, il y a la construction d'une figure pontificale comme véritable guide spirituel. C'est-à-dire que s'il rejette l'idée que le pape puisse être un guide politique pour s'occuper des affaires de la cité, Dante construit en quelque sorte en creux l'idée d'un pape qui puisse être véritablement gouverneur des âmes et qui puisse ouvrir finalement sur une direction éthique des individus. Ce pape en creux, en quelque sorte, que Dante présente, est la figure aujourd'hui pontificale, c'est-à-dire un guide spirituel, un guide moral, plus qu'un guide politique au sens le plus strict du terme.
Comment Dante pourrait-il manifester aujourd'hui son actualité? Quels seraient les signes, avertissements et réflexions de sa part encore pertinentes pour notre époque?
D'une part au niveau individuel, c'est-à-dire sur la possibilité perpétuelle de se perdre soi-même, donc au niveau du cheminement spirituel, intellectuel, Dante est, on pourrait dire, toujours d'actualité depuis son époque. Mais il y a aussi une réflexion, alors cette fois-ci politique, puisque Dante se demande comment est-ce qu'on peut réaliser le bien commun. C'est-à-dire qu'il est dans une structure qui est celle des communes italiennes du XIIIe siècle, qui sont des républiques dans lesquelles il y a des élections. Et ce qui est son angoisse principale, c'est de voir que le pouvoir de l'argent, par exemple, a complètement corrompu Florence et a amené à une destruction complète de la structure politique, du lien politique et de la communauté. Et il dénonce énormément les gains trop rapides, les structures bancaires, cette espèce de recherche perpétuelle de la richesse qui, pour lui, a été la ruine de la concorde entre les hommes.
Face à ce patrimoine infini de connaissances, donc comment évidemment ne pas être pris de vertige à la fréquentation de Dante? Alors, à quel fil directeur simple et sobre de sa pensée on pourrait se raccrocher?
C'est sans doute le fil de l'amour. Dante est avant tout le poète d'amour. Il se présente comme l'intelletto d'amore, où l'amour s'élève progressivement vers un amour divin. Donc on a un véritable trajet de cette notion amoureuse, un amour qui passe de l'amour charnel vers un amour de plus en plus spiritualisé. Et on a cette notion qui permet à la fois de comprendre l'amour interindividuel, l'amour pour la communauté et aussi évidemment la transcendance de l'amour divin qui est le terme de son pèlerinage.